Quelques versets dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. L'Épître aux Romains au chapitre 12. Voilà, vous m'entendez tous, j'espère. Alors, Romains chapitre 12, et nous lisons au verset 9e. Que la charité, ou d'autres traductions, marque charité par amour, c'est-à-dire que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Gloire à Dieu. On arrête là la lecture du texte. Il y a encore à lire. Vous pourrez le faire à la maison. Il y a là donc quelques applications diverses dans l'action que nous devons faire par rapport à l'amour qui doit résider dans notre cœur. Et l'amour, c'est l'amour de Dieu qui doit se répandre dans nos vies et se répandre autour de nous. Et là, on aurait pu prendre le temps d'expliquer, du moins avec l'aide du Seigneur, toutes ces recommandations qui nous ont été données par l'apôtre Paul à l'église de Rome, mais le message donné à l'église de Rome est encore valable pour les églises, pour l'église d'Annecy et pour les autres. Et là, tout le monde dit « Gloire à Dieu ». Et moi, je vous dis qu'il en soit ainsi. Amen. Nous allons simplement nous arrêter, et il y a de quoi à réfléchir et à être instruit par la parole de Dieu, par ce passage où il est écrit simplement « Servez le Seigneur ». Dans Parole vivante, ce verset 11 est traduit ainsi « Ne devenez pas nonchalant dans votre travail pour le Seigneur, faites-le avec énergie et zèle, ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, parce que vous le savez comme moi, c'est écrit dans l'Apocalypse, les tièdes n'hériteront pas du royaume des cieux. Et il est dit encore, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Alléluia. Servez le Seigneur. Amen. Alors on va s'arrêter sur cette, instruction, on pourrait presque dire recommandation, on pourrait presque même dire à la limite l'ordre donné par le Saint-Esprit à l'église de Rome au travers de l'apôtre Paul, servez le Seigneur. Amen. Il ne faudrait quand même pas oublier, mes frères et sœurs, qui que nous soyons, que lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, lorsqu'il nous a appelés, lorsque nous avons accepter volontairement et avec joie de passer par les eaux du baptême. Il est vrai que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il est vrai que Dieu a mis en nos cœurs l'espérance de la vie éternelle. Mais il ne faut surtout pas oublier que le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est pour un héritage éternel. Mais le Seigneur nous a dit aussi, quand on lit la parole de Dieu, de le servir. Amen. Je sais que parfois, maintenant, on le chante plus, mais c'est un petit peu dommage, mais il y a un cantique sur les ailes de la foi qui dit « Sur toi, je me repose ». Il n'est pas dit « Je me repose sur les autres ». Je me repose tranquille, je fais farniente. Non, je me repose sur toi, Seigneur. Et je me repose sur toi dans tous les instants, dans tous les moments de ma vie, mais je me repose sur toi pour que tu m'aides dans le service auquel tu m'as appelé. Nous sommes tous, les uns et les autres, qui que nous soyons, frères et sœurs, jeunes et vieux, entre guillemets vieux, parce que moi j'ai un peu d'âge, mais je considère que je vais vers la jeunesse éternelle. Donc, pas vous, hein. Vous êtes tout jeunes, vous, hein, ça va, hein. Eh oui. Vous savez pas qu'il est écrit dans la Bible que je prends de l'âge, mais que je rajeunis comme l'aigle? Amen. Hein. Il n'y a qu'une chose. Allez, j'ouvre une petite parenthèse. Vous ne soyez pas étonnés, hein, les frères et sœurs qui sont là. Bon, de temps en temps, je donne des petits exemples en passant. Et vous savez, quand vous une étude à faire et que j'ai fait il y a quelques années en arrière, c'est d'étudier la vie de l'aigle. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que l'aigle, il prend son envol. Et puis, il prend soin de lui, il prend soin de sa famille. Il y a une étude à faire là-dessus. Mais en regardant l'aigle, je me suis aperçu et j'ai vu que l'aigle, à un certain moment, il perd ses plumes. Alors j'ai dit, bon, ben ça va, moi aussi. Et puis j'ai dit, ah, mais il y a une consolation. Les plumes que l'aigle perd, elles repoussent. Moi, j'attends le miracle. Mais je rajeunis comme l'aigle. Et il me prépare à rentrer dans sa gloire. Alléluia. Et jusqu'au bout, comme je le disais tout à l'heure, Seigneur, aide-moi à te servir. Alléluia. À partager ton nom, ton amour, ta parole, afin que des âmes puissent être sauvées encore pour l'éternité. Alléluia. Vous savez ce que disait déjà Moïse lorsque Dieu l'envoya auprès de Pharaon en ce qui concerne son peuple? Dieu a donc demandé à Moïse d'aller vers Pharaon avec bien sûr la parole de Dieu. Et voici ce que Moïse dit dans Exode chapitre 4 verset 23. « Je te dis, dira-t-il au Pharaon, laisse partir mon fils, en parlant d'Israël, pour qu'il me serve. » Vous voyez ? Qu'il me serve. « Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Quelle sentence terrible pour Pharaon. Mais malgré cette sentence, le Pharaon n'a pas écouté et nous savons les conséquences de son incrédulité. Par contre, Dieu a été obligé d'intervenir et effectivement, Dieu a permis à son peuple de quitter le pays de l'esclavage pour arriver, bien des années plus tard, dans le pays promis, le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dans le temps, mais il accomplit toujours ses promesses. Faites confiance à la parole de Dieu. Faites confiance à l'amour de Dieu. Faites confiance au nom de Jésus. Alléluia. Faites confiance et servez Dieu de tout votre cœur parce qu'il vous a sauvé. Oui. Mais pour le servir, oui, alléluia. Il n'est pas bon de rester assis sans rien faire pour le Seigneur. C'est une image. Nous sommes tous appelés à servir en tout temps et en toutes circonstances. Amen. J'avoue, parce que la Bible nous le prouve, que ce n'est pas facile quand on veut servir le Seigneur de tout son cœur. Parce qu'il y a de l'opposition, déjà de l'adversaire. Mais il y a d'autres oppositions qui viennent et nous devons savoir passer au-dessus des oppositions. Il y a aussi des épreuves pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour nous décourager. Mais il faut aller toujours plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Quand le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, eh bien, il y avait déjà Moïse à la tête, mais Moïse était l'interprète de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que, comme Dieu le dira quand on relit les textes de l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, « Je viendrai et j'habiterai au milieu de vous. » Alléluia. C'est formidable. J'ai une bonne nouvelle pour vous si vous l'avez oublié. Dans le Nouveau Testament, il est dit, « Je viendrai et j'habiterai dans vos vies. » Avec vous. Dans votre cœur, dans vos pensées. Je serai avec vous, je vous garderai, je vous conduirai, je vous bénirai, et dans ma fidélité et votre service, alors vous aurez la place qui vous est réservée dans le ciel. Alléluia. Amen. Alors, on peut se poser cette petite question, mais alors, à quoi correspond le service? Alors, ça va être que des rappels que vous devez connaître. La première des choses, parce que le service appelle à plusieurs actions. La première, vous la connaissez tous, la louange. Savez-vous que quand je loue Dieu, je lui fais plaisir. Amen. Mais également, je le sers. Comment servir Dieu? Par la louange. Parce que la louange, quand nous louons le Seigneur, ce sont des louanges de remerciement à Dieu. Et vous avez certainement noté que dans la louange, certains parmi nous, et ils ont raison, « Seigneur, je te remercie, tu m'as guéri !» Vous faites quoi là? Ben vous servez le Seigneur. Parce que dans la foule qui est là, les frères et sœurs, ou parfois les nouveaux qui sont au milieu de nous, ils sont touchés par ces paroles. Combien d'hommes et de femmes, et je peux vous le dire parce que j'ai connu ces choses, combien d'hommes et de femmes ont dit un jour dans leur témoignage, j'étais à un culte, j'ai entendu une louange, mon cœur a été touché, je suis sauvé. Amen. Voyez. Alors qu'est-il écrit dans Hébreux chapitre 13 et verset 15? Par lui, c'est-à-dire par Jésus, offrons quoi? Hein? Offrons. Alors avant que vous me disiez la louange, j'aimerais que, sans regarder dans vos Bibles, vous me citiez le petit mot qui est là. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Mais c'est pas ça. Ça, c'est important, mais il y a plus important. Comment? Sans cesse. Sans cesse. C'est-à-dire, si on voulait imaginer, à tout instant, je loue le Seigneur, pas seulement le dimanche matin, mais à chaque instant, mon âme doit louer le Seigneur. Alléluia. Quand je rends témoignage, je loue le Seigneur lorsque je dis « Dieu m'a béni dans le nom de Jésus ». Je loue le Seigneur et je rends témoignage. Et le Seigneur fait le reste après, par le Saint-Esprit. Amen. Il est dit, je reprends, « Offrons sans cesse à Dieu, on l'a entendu, un sacrifice de louange, et écoutez bien, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Amen. Chaque fois qu'on loue le Seigneur, on confesse son nom. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. De quoi? De la louange. Amen. Alors mes frères et sœurs, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais dans nos cultes, louons Dieu avec le cœur, mais si possible, avec nos lèvres. La louange, c'est le fruit de nos lèvres. Alléluia. Après la louange, cela va de soi, il y a l'adoration. On loue et on adore. Et on adore Dieu, seul, juste, vivant, bon et droit, et pas un autre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas eu d'autres dieux avant lui, et il n'y aura pas d'autres dieux après lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si vous allez vers d'autres dieux, quels qu'ils soient virtuels ou irréels, hein, des dieux qu'on se compose, et surtout ne vous prenez pas pour un dieu, parce que ça c'est impossible. Il n'y a qu'un seul Dieu, et par lui, toute grâce et tout don parfait nous sont accordés. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Sauveur. Lui seul est le seul Seigneur Dieu, le Dieu éternel et de toute éternité. Alléluia. Alors il est dit quoi dans Jean au chapitre 4, verset 23? Vous connaissez ce verset. « Mais l'heure vient, dira Jésus déjà en son temps, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » Amen. Quand je viens dans la maison de Dieu, c'est pour l'adorer de tout notre cœur. Je sens que je ne vais pas me faire des amis ce matin. Ça m'arrive souvent, hein, de dire ça. Mais je ne peux pas mettre de côté la parole de Dieu. De vrais adorateurs. Ça veut dire que quand j'adore mon Dieu, mais je pense que vous le faites, hein, je l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire d'une manière sincère. Je ne viens pas pour en mettre plein la vue à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait là? Si je viens dans la pensée de dire je vais au culte et puis je vais louer Dieu de telle ou de telle manière, on est un petit peu à côté de la plaque. Je ne dis pas que Dieu n'écoutera pas votre prière, mais vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Si je viens dans la maison du Seigneur, c'est pour l'adorer de tout mon cœur, en sincérité. C'est à lui seul et à lui seul que je veux rendre gloire. Alors que je sois timide ou pas timide, je viens et je l'adore de tout mon cœur. Je loue Dieu de tout mon cœur. Si je loue un petit peu avec un français qui n'est pas droit, c'est pas grave. Dieu rectifie tout parce que lui, il regarde au cœur. Alléluia. Ne vous privez pas de louer et surtout adorez-le. Alléluia. De tout votre cœur. Ce sont de tels adorateurs que Dieu cherche. Amen. Comment faire encore? Eh bien, on sert le Seigneur dans le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. C'est-à-dire faire le don total de ma vie à Dieu, qu'il conduise ma vie et que je le serve, encore une fois, de tout mon cœur. Qui veut dire de tout mon cœur, sans rouspéter. Pourquoi moi, Seigneur? Parce que tu dois faire des progrès. Et là, je comprends que vous ne disiez pas Amen. Pourtant, j'ai lu dans la Bible que vous et moi, nous devons progresser. Ah, il y en a qui se croyaient déjà arrivés là, hein. Non, non, tu dois progresser jusqu'au jour où tu apparaîtras devant lui, ou que lui apparaîtra devant toi quand il reviendra sur les nuées. Alléluia. Alors tu dois progresser. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui nous dit dans sa foi humble, ce n'est pas que j'ai encore atteint le but, mais je cours. Après, pour pouvoir l'atteindre. Amen. Vous avez lu tout à l'heure dans le texte qu'on doit être zélé et plein d'ardiesse, plein de courage. Alléluia. Et vous savez que courir, c'est pas facile, hein. Vous avez déjà remarqué certaines personnes? Qu'est-ce que tu vas faire? Du jogging. C'est bien. Alors moi, des fois... je vois des gens qui courent. Alors, je les vois bien partir. Ça va bien. Et puis, au bout de quelques kilomètres, c'est difficile pour atteindre le but. Je vais vous dire une petite expérience. J'aimais courir à l'école. Au lycée, on faisait beaucoup de sport. Et j'aimais courir. Le Seigneur me préparait à courir pour la foi. Alors, et j'étais fier. Un jour, je suis parti le premier. Et je dis, dans ma tête... Je vais tous les avoir. Parce que je me sentais fort. Et alors, vas-y, cours, René, cours, René. Mais il fallait faire 3 grands tours. Le premier, c'est bon. Le deuxième, je commençais à fatiguer. Et le troisième, j'ai vu une chose extraordinaire. C'est que les uns après les autres, ils me doublaient. Il n'y a rien de plus démoralisant d'être doublé par ce que vous étiez en train de mener, parce qu'au départ, vous êtes parti en disant « je vais tous les avoir » et à l'arrivée, ils vous ont tous eu. J'ai eu ce qu'on appelle à un moment donné un coup de vide. Je ne pouvais plus courir. Je moulinais mes jambes, mais je n'avais pas l'impression d'avancer. La preuve, ils me doublaient tous. Vous savez, il ne faut pas courir plus vite que ce que l'on peut. L'apôtre Paul courait dans sa foi à sa vitesse. N'allez pas plus vite, entre guillemets, que la musique. Laissez Dieu conduire votre vie. Mais courez quand même. Progressez. Alléluia. Progressez dans la vie avec le Seigneur. Et surtout, gardez cette constante de persévérance. Je suis peut-être fatigué, je suis peut-être un petit peu lassé, je suis peut-être un petit peu découragé. Mais je continue, je persévère parce que rien ne viendra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça la vie du chrétien. C'est comme ça qu'on sert le chrétien, jusqu'au bout. D'ailleurs, il est écrit ceci dans Romains chapitre 12, verset 1, parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Nous l'avons donnée le jour du baptême, gloire à Dieu. Maintenant, ne la reprenons pas. Notre vie a été offerte en sacrifice pour l'aimer, pour le suivre et pour le servir. Et sachez que Dieu ne vous demandera jamais quelque chose au-delà de vos forces. Mais quand vous êtes arrivé au-delà de vos forces, alors il est celui qui vous fortifiera pour que vous alliez encore plus loin. Alléluia. Et pour progresser dans la foi, afin d'atteindre en vainqueur la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, il y a aussi, toujours dans le service, la manifestation de l'amour sincère envers lui. Amen. Dans Deutéronome, au chapitre 10 et verset 12, Dieu s'adresse au peuple, il lui dit « Maintenant Israël, que demande de toi, Éternel, ton Dieu ? Si ce n'est que tu le craignes, ou que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Amen. Amen. Bon, ça, on est tous d'accord, c'est pour le peuple d'Israël. Donc, ce qui veut dire peuple d'Israël veut dire pour les enfants de Dieu, puisque Jésus appelle aussi son peuple mon enfant. Vous l'avez lu ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Comme ça, à midi, vous allez méditer. Qu'est-ce que vous êtes, vous, qui avez donné votre cœur au Seigneur, qui vous êtes engagé avec lui ? Vous êtes ses enfants. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce verset que je viens de lire, il est pour vous. Comme pour moi. Amen. Eh oui. Alors, je dois l'aimer et le servir. Et cela, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ce qui veut dire que Dieu veut des cœurs entiers et pas partagés. Entiers. Parce que Dieu, dans l'Apocalypse, j'en ai cité un petit peu tout à l'heure, je crois, Dieu, lui, regarde au cœur. Et savez-vous qui sait et qui voit comment il est notre cœur ? Et dans l'Apocalypse, il nous dit, sois ton cœur. Il est bouillant, alors, gloire à son nom, parce qu'il est bouillant veut dire qu'il lui appartient entièrement. Soit il est froid, ce qui veut dire que Dieu n'a pas de place dans ta vie. Au moins là, c'est clair et net. Ou t'es chaud, ou t'es froid. Si t'es chaud, bouillant, tu seras sauvé. Si t'es froid, tu auras des complications. Et puis entre les deux, il y a tiède. Et là, les tièdes, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Je les vomis de ma bouche. Alors eux, ils sont rayés, terminé. Et vous relirez maintes fois dans la parole de Dieu, et notamment dans l'Ancien Testament, ce que j'attends de toi, c'est que ton cœur m'appartienne entièrement. Pas de froid, pas de tiède. Je ne veux que des bouillants. Je suis curieux un petit peu de nature. Est-ce que ça boue chez vous? Est-ce que ça boue? Je ne parle pas de la cuisine, hein, là je parle de votre cœur. Hein. Est-ce qu'il boue? Est-ce qu'il boue pour Dieu? Alléluia. Et ça doit bouillir, hein? Quand on entend, je ne sais pas si je vais en parler, mais quand on entend, c'est l'heure de la réunion. Oui, Seigneur, j'arrive et avec joie, j'y vais. C'est bouillant ça, non? Oh non. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois des situations, il faut être quand même sincère, hein, où c'est compliqué, hein. Ou quand on est dans un lit de maladie, à moins qu'il y ait un miracle, on se lève, on dit « Oh, ça va bien, je vais à la réunion, j'ai été guéri. » Amen, et vous rendez témoignage. Mais des fois, le Seigneur, il nous cloue. Non. Alors, je vais vous dire, tant pis si je ne dis pas tout, mais il faut dire l'essentiel. Je vous dis que le Seigneur nous appelle à être des bouillants. Alors je vais vous donner ce petit témoignage. Mon épouse aurait dû vous le dire, mais d'ailleurs elle vous salue, j'ai oublié de vous le dire. Elle vous salue et avec le temps et la santé un petit peu précaire, eh bien elle prend des dispositions pour ne pas compliquer sa vie. Mais un jour que j'étais en mission dans une église et une région de France, je n'étais pas à la maison, voici que mon épouse, faisant un mouvement un petit peu particulier dans son service à la maison, est restée bloquée par le dos. Impossible de se lever, enfin de se relever, de bouger. Alors finalement, elle a fait appel au médecin et à mon fils qui était dans le coin. Et le médecin, il est arrivé, quand il lui a expliqué, il est arrivé en urgence à la maison. Quand il a ausculté, il lui a dit « Surtout, 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 ne bougez pas. » Alors vous savez, quand déjà vous entendez ça, il dit « Appelez, il a dû s'adresser à mon fils, parce qu'il dit « Appelez de suite les pompiers qui viennent chercher votre épouse et votre mère et qui l'amènent directement à l'hôpital. » Les pompiers sont arrivés, ils l'ont mis dans une coque, pour pas qu'elle bouge. Délicatement, ils l'ont descendu dans l'ambulance. Délicatement, ils l'ont amené à l'hôpital. Qui, à l'hôpital, ça remonte à des années, on a fait rentrer ma mère dans un petit, comme on fait aujourd'hui, hein. Même pas, elle était dans le hall d'entrée, là, juste après. En attendant, et c'était un samedi, vous voyez, un samedi, ou un vendredi soir. En tout cas, non, je crois que c'était un samedi. Et elle est restée là. Alors mon fils est resté un moment avec elle. Et alors il y a des braves infirmières qui sont venues. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Et les heures ont passé. Mon fils est venu, il a dit, bon maman, t'inquiète pas, je vais. Il revient, elle était toujours dans le même endroit. Quelqu'un t'a vu? Non, personne. Bon, je résume. Pendant des heures, elle est restée dans cet endroit. Finalement, mon fils a dit, mais attendez, ça fait longtemps. Alors, dit, on va vous envoyer quelqu'un. On lui a envoyé un médecin qui était là. Vous savez, ceux qui sont, je vais dire entre guillemets, et sans diminuer quoi que ce soit. Un apprenti, enfin un docteur qui est là, remplaçant, on va dire. Et lui pose des questions. Et la première question, elle dit, qu'est-ce qu'on vous fait quand vous êtes comme ça d'habitude? Comment? Alors c'est elle qui lui donnait le... Bon. Et après, elle a découvert que cet homme-là, qui essayait de faire du mieux possible, il n'était pas du tout programmé pour la colonne vertébrale. C'était un cardiologue. Alors, bon, finalement, ils ont trouvé, pour résumer rapidement, finalement, il n'y avait pas de place pour la ranger. Alors, finalement, ils l'ont rangé. Et on lui a dit, madame, écoutez, on a trouvé une place, on va vous placer en gériatrie. Bon. S'il n'y a que ça. On l'amène en gériatrie et on la fait rentrer dans une chambre où il y avait déjà une dame âgée, puisque c'est la gériatrie, qui avait à peu près 90 ans. Et quand ma femme a été mise dans le lit, elle était face à la dame qui était de l'autre côté, vous voyez. Elle voyait cette dame âgée qui était là et qui ne cessait de dire des paroles difficile à entendre et qui concernait Dieu. Alors je ne vais pas vous dire toutes les paroles, ma femme aurait pu vous le dire si elle avait été là, mais au bout d'une heure ou deux heures, ma femme lui a dit, mais pourquoi vous parlez comme ça de Dieu? Qu'est-ce qui vous a fait? Alors elle le regarde et dit, pourquoi vous croyez en Dieu, vous? Alors ma femme dit, oui, je crois en Dieu. Elle lui dit, et vous l'avez vu, Dieu? Et ma femme lui dit, ben oui, j'ai vu Dieu dans ma vie, pas comme je vous vois vous, mais j'ai vu de grâce et des bénédictions. J'ai vu l'amour de Dieu, j'ai vu comment il était fidèle. Et cette dame de 90 ans a baissé de régime dans la tonalité. Il y a eu un temps de silence. Et après, cette dame lui a dit, madame, vous savez pas ce que vous êtes en train de me dire? Je l'ai entendu jusqu'à l'âge de 12 ans. Parce que mon père et ma mère étaient des protestants. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, on allait à l'école du dimanche. Mais à l'âge de 12 ans, ce temps-là, comme il n'y avait pas de quoi survivre, nos parents nous ont mis au travail dans des fermes environnantes. Ce qui fait que depuis l'âge de 12 ans, je n'ai plus vu ni mon père ni ma mère. Et ma femme, alors à partir de ce moment, lui a parlé du Seigneur Jésus. Et elle lui a dit notamment, eh bien, vous savez, si vous êtes là, c'est parce que vos parents, jusqu'à la mort, ont prié pour vous, pour que vous soyez gardés et bénis. Cette femme disait, mais ma vie a été une vie de souffrance, hein, parce que je me suis mariée assez jeune, et puis mon mari est vite tombé malade, et toute ma vie j'ai dû travailler et soigner mon mari. C'était une vie de souffrance. Mais ma femme a continué, elle lui a encore parlé de Jésus. Elle lui a parlé de l'amour de Dieu. Elle lui a dit, vous savez, au lieu d'injurer Dieu, eh bien, priez-le, invoquez-le. Et vous allez voir, il va vous donner sa paix, il va vous donner une bénédiction intérieure. Et puis, ça s'est terminé là. Quelques minutes après, ma femme a entendu la dame d'à côté qui était en train de prier Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse plus souffrir. Prends-moi auprès de toi. C'est formidable, ça. Hein? Alors, ma femme est restée du samedi au lundi matin. Quand on l'a mise dans la pièce où elle a rencontré cette personne, on lui a dit, on va vous envoyer quelqu'un, on va vous soulager. Elle est restée du vendredi, donc du samedi, au lundi matin, sans voir personne. Alors au matin, qui, ma femme, voit-elle arriver? Pas son mari, parce que j'arrive un peu plus tard, mais revenant de la mission. Mais le médecin généraliste qui s'inquiétait pour elle. Alors il dit, généraliste, il dit, alors qu'est-ce qu'on vous a fait? Et ma femme, avec un grand sourire, lui dit, rien. Comment ça, rien? Rien. Je vais aller voir ce qui se passe. Non, docteur, n'y allez pas. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Et elle s'est mise debout. Elle s'est baissée. Elle a fait le rond du dos. Elle a fait tout ce que vous voulez avec la colonne vertébrale. Et elle regarde le docteur. Dit, ne vous dérangez pas. Je prends mes affaires. Je m'en vais. Je suis guéri. Moi, je suis venu juste pour la chercher et la ramener à la maison. Alléluia! On peut être malade et puis être de bons serviteurs, hein? Servez le Seigneur en toute occasion. Alléluia. Des fois, on passe par des chemins qu'on ne comprend pas avec le Seigneur. Mais t'inquiète pas, il a un plan. Et là, je vois que vous êtes tous d'accord, vous avez tous dit Amen. Je sens qu'il y en a qui disent, moi, je suis d'accord pour un plan facile. Les difficiles, Seigneur, non. Oui, mais les difficiles, c'est pour sanctifier notre foi. Comme j'aime à le dire, Seigneur, c'est bon les faciles. Les difficiles, c'est plus difficile. Alors, Seigneur, permets-moi de ne pas te les demander. Mais si j'y passe, je compte sur toi pour aller plus loin. Alléluia. Et là, je n'ai pas le temps de vous dire que le chemin que nous avons connu avec mon épouse et parfois avec mes enfants a été difficile. Très difficile. Mais Dieu a toujours su bénir, et notamment, je dirais, merci Seigneur de m'avoir gardé ma femme, qui est un soutien pour un ministère. Alléluia. Que Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Mais dites-lui, Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu est bon. Amen. La manifestation sincère. Dans Jean chapitre 15, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, d'autres versions disent, s'applique à les observer, c'est celui qui m'aime. C'est Dieu qui nous dit ça au travers de Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, dit Jésus. Mais aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous avons un Sauveur merveilleux. Nous avons un ami merveilleux. Car n'oubliez jamais que Jésus a dit à ses disciples, eh bien, qui nous appelait ses amis. Alléluia. Nous sommes ses amis, mais plus que ses amis, nous sommes ses frères. Nous sommes ses sœurs. Vous, les sœurs d'ici, vous êtes les sœurs de Jésus. Et vous êtes, vous et moi, nous tous, cohéritiers de la vie éternelle avec Jésus-Christ. Que c'est bon de lire tout ça, de le repenser dans son cœur. Et de dire, Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur et de toute mon âme. Non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Alléluia. Seigneur, qu'il est bon d'être tes enfants. J'ai encore deux petits points, vous voyez, je ne vous dis pas tout parce qu'il y en a deux pages, hein. Alors je ne vous dis pas tout autrement. Vous êtes pressé de manger? Non, ça va. Il faut aussi dans le service le respect de sa parole et de son nom. Le respect. On ne se moque pas ni de Dieu, ni de sa parole. Vous êtes étonné d'entendre ces choses? On pourrait dire, mais ça c'est bon pour les incroyants. Comme on dit dans le midi, que nenni. Parce que du moment où je n'écoute pas et ne respecte pas la parole, que je veux faire ce que je veux, je ne suis pas conforme. Je ne respecte pas Dieu, ni sa parole. Et notre Dieu, que l'on appelle notre Père, ce qu'il attend de nous, c'est le respect de sa parole et de son nom. Amen. Vous avez déjà entendu peut-être des pères avec beaucoup d'amour dire à leur fils, parce qu'ils étaient un petit peu désobéissants ou irrespectueux, de leur dire « Tu me respectes ». En tout cas, si vous ne l'avez pas dit, il y a certaines situations où on est parfois obligé de le dire. « Tu me respectes ». Je suis... Non, je ne vais pas le dire parce que vous allez croire à quelque chose. Enfin, je vais le dire quand même. « Je suis ton père ». Mais ce n'est pas celui-là, hein. Eh oui, qu'il était dit dans Deutéronome chapitre 10 verset 13, il faut quand même piocher dans l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament et l'Ancien Testament précède le Nouveau Testament, ce que le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. Vous m'avez suivi dans le raisonnement? Bon, ben vous y passerez cette nuit. Hein. Voilà. Alors Deutéronome chapitre 10 verset 13, si ce n'est, dit-il à son peuple, que tu observes les commandements de l'Éternel, et ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, et là vous me dites la fin du verset, je serai content. Afin que, et voilà, tu sois heureux. Alors si des fois vous n'êtes pas heureux, revenez à la Bible. Respectez Dieu. aimez-le et servez-le de tout votre cœur et vous serez heureux. Alléluia. Un autre verset dit ceci, Hébreux chapitre 13, versets 23-29, c'est la Bible du semeur. Le royaume que nous recevons est inébranlable, mes frères et sœurs. C'est la Bible qui le dit, c'est le Seigneur. Un royaume inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Avec, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avec soumission et respect. Car notre Dieu... est un feu qui consume. Tôt ou tard, si je ne l'aime pas, si je ne le respecte pas en tant qu'enfant de Dieu, et si je persiste dans ce qui est respectueux, c'est-à-dire la désobéissance à sa parole, c'est un feu qui dévore. Alors on pourrait dire, Dieu, un feu qui dévore, oui, il est possible que Dieu fasse de nous des torches. Mais en fait, il y a un mot dans la Bible qui peut faire peur aux inconvertis, mais qui est réel pour les chrétiens, c'est l'enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Non ? Alors, je terminerai par cette parabole du Seigneur Jésus qui pour expliquer justement aux disciples, et il y avait un champ, dira-t-il. Et dans ce champ, eh bien, il y a des herbes qui poussent. Il y a de la... Je reprends les textes, hein, le texte, les paroles de Jésus. Il y a de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Vous connaissez, hein, ce texte, hein. Et puis, il nous est dit que là, eh bien, la question fut posée. Eh bien, est-ce qu'on peut arracher les mauvaises herbes? Elles empêchent les autres de croître, les bonnes herbes. Et il est répondu, non, non. Laissez-les pousser ensemble. Hein, vous rappelez ce texte? Car il viendra un temps où on arrachera les mauvaises herbes que l'on jettera au feu. Et les bonnes herbes, on les mettra dans le grenier. Ne regardez pas, oh, j'ai une paire d'yeux là, enfin une paire, j'en ai plusieurs là, des yeux qui me regardent. Moi je suis tout seul, hein. Là vous regardez. Maintenant vous êtes tous en train de vous dire, mes frères, c'est de la bonne ou de la mauvaise. Je vais vous dire, j'ai une réponse. Vous voulez la connaître? Dieu seul sait. Mais déjà, chacun individuellement, ou compris, par notre manière de vivre, par au regard de la parole de Dieu, obéissance ou désobéissance. Déjà par là, en étant conscient de ça, est-ce que ce matin, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais chacun individuellement devant le Seigneur, est-ce que tu peux dire, je suis une bonne herbe ou je suis une mauvaise herbe? Ça, c'est par rapport à ta vie et vis-à-vis de la parole de Dieu. Si tu, par exemple, si tu abuses du mensonge, chose qu'il ne faudrait pas faire, tu sais quand même qu'il est écrit, les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Maintenant, si la Bible dit, si tu pèches, oh ouais, mais c'est un petit péché. Ouais. Il est écrit, si tu pèches, si tu désobéis à un seul des commandements, tu pèches. Mais il ajoute, mais tu pèches à tous. C'est-à-dire, si je mens, je suis aussi coupable que celui qui vit dans l'adultère ou dans le concubinage. Mes frères et sœurs, le concubinage, Dieu n'est pas d'accord. Hein. Ah oui, les pensées du monde, c'est ça. Mais nous, on n'est pas du monde, hein, on est de la parole de Dieu, nous, on est enfants de Dieu. Alors, si vous voulez faire changer la Bible à vos intérêts, ça vous regarde. Mais il est bien dit, non, niette, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Le chrétien respecte la parole de Dieu. Il obéit. Ah oui, peut-être quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais la vie est difficile, tout ci, tout ça. Ah oui, vivre parfois dans le concubinage, comme ça, ça paraît bien. Oh, remarquez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est mieux de ne pas se marier. Ah bon? Pourquoi? Parce que les divorces, ça coûte cher. Ah ben alors, il faut savoir que quand même, quand on se marie, c'est pour la vie, hein. Moi, je ne me suis pas marié en disant, je vais divorcer. Quand je suis passé devant M. le maire, comme tous ceux qui se sont mariés, il dit de rester fidèle à sa femme et d'être avec elle dans les bons, dans les mauvais moments, quand c'est facile, quand c'est difficile, d'en prendre soin. Oui, c'est bien de prendre soin de sa femme. Mais ce qui est bon, c'est de voir sa femme prendre soin de son mari. Et bon petit plat. Bon, on change d'idée là, parce que... Hein, ça, c'est la vie du chrétien. Sincère, honnête, droit, juste, comme Dieu le veut. Et avec la joie du service pour le divin maître. Amen. Amen. J'arrête parce que autrement on va être longtemps là. En tout cas, je crois que Dieu a dit l'essentiel. Maintenant, comme on dit, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On rectifie le tir, si ça l'a est. Et puis on continue la route avec le Seigneur, avec plus d'ardeur. Plus de zèle, plus de courage, plus d'amour pour lui. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen.